vous accueillir, non pas moi-même, mais plutôt de vous laisser être accueilli par un plus grand que moi, le Seigneur lui-même. Et je vous dirai simplement que j'ai formé un souhait de bienvenue et puis aussi un vœu pour cette retraite qui est l'avant-dernière de cette année 91, si fertile en circonstances inattendues pour ce monde. Mon souhait de bienvenue, je l'ai noté au tableau, et comme j'avais peu de temps, je n'ai écrit qu'à première partie, pensant que vous aviez en mémoire la fin de ce verset. Je vous ai dit que ce n'est pas moi qui voulais vous accueillir ce soir, mais que c'était le Seigneur lui-même. Alors si c'est le Seigneur lui-même, c'est lui qui vous dit ce soir cette parole qu'il prononçait quand il était en Galilée. Venez à moi, qui ? Vous tous qui êtes chargés, travaillés, fatigués, et il y en a qui peuvent être encore plus fatigués que d'autres puisqu'ils ont dû chercher, mais ils ont fait l'expérience que quand on cherche selon l'Écriture, on trouve. Et ils ont fait l'expérience aussi que quelquefois la police peut faire le travail des anges ou d'un bon berger qui nous ramène au bercail. De sorte que même dans un policier, vous devriez y voir le Seigneur. Ça change tout l'aspect de la police. Y voir le Seigneur, voir dans notre prochain le Seigneur lui-même. Et tout à coup, on découvre que même un policier peut être un ange pour nous. Et je crois qu'il y a des anges dans la police. Bon. Alors, venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués, qui êtes chargés, qui êtes travaillés. Est-ce que ça vous concerne? Peut-être qu'il y en a qui reviennent de vacances, alors. Ils disent, non, ça, c'est pas pour moi. Bien, je vous dis quand même, venez à moi. Vous dit Jésus, dès ce soir, non pas venez écouter un prédicateur, c'est pas intéressant ça, mais venez à moi, vous tous. Moi je connais pas vos circonstances, je ne sais pas comment vous êtes partis de la maison, je ne sais pas quel esprit régnait dans votre demeure, je ne sais pas ce que vous pensiez le long du chemin, mais le Seigneur, lui, le savait. Et puis maintenant, dans ce lieu béni, ce lieu de retraite, ce lieu de repos qui est mis à notre disposition depuis tant d'années, Jésus lui-même vous dit, venez à moi. Et que vous promet-il? Et je voudrais que vous le croyiez dans ce qu'il vous dit. Je vous donnerai, vous savez ça par cœur, du repos. Je vous donnerai du repos. C'est quelque chose de merveilleux. Mais quel est ce repos que le Seigneur veut nous donner? C'est le repos d'abord de notre conscience. Vous savez que si souvent nous avons mauvaise conscience et notre conscience nous charge et nous pèse, eh bien, ce que le Seigneur voudrait vous donner, connaissant vos circonstances, c'est d'abord une conscience purifiée de tout mal. Et c'est pas à vous qui devez vous purifier. C'est lui qui vous dit, je te donnerai le repos. Pour quelle raison? Parce que là, vous avez cette image de la croix. Je ne suis pas un homme qui a le culte des images, mais je dis quand même que quand je pense à Jésus crucifié, je vois à l'intérieur de moi une croix. Hein. Alors ça ne me gêne pas. Il n'est plus sur la croix, mais il était sur la croix. Et s'il vous dit qu'il peut vous donner du repos, c'est parce que tout ce qui pouvait troubler votre conscience, il l'a pris à son compte et il est mort pour vous, pour que votre conscience soit entièrement purifiée et que vous ayez une bonne conscience. Alors, vous allez commencer, quelles que soient vos circonstances, en ayant en Jésus une bonne conscience. Je vous donnerai du repos. Le repos de la conscience, c'est lui qui nous l'a donne, qui nous le donne. Il nous donne le repos. On ne peut pas fabriquer le repos. Vous pouvez faire toute espèce de choses, ce n'est pas cela qui vous donnera du repos. Vous pouvez rester à genoux des heures, ce n'est pas cela qui vous donnera du repos. C'est de croire que Jésus est capable de vous donner ce repos. Et s'il vous dit, venez à moi, je vous donnerai le repos, eh bien, il le sait. Alors, je le saisis, ce repos. Puis, je n'ai pas écrit la suite de ce verset, mais j'ai pensé que vous feriez vous-même la suite parce que vous le connaissez par cœur, je pense. Qu'est-ce qu'il est ajouté? Dans ce chapitre 11 de Matthieu, pour ceux qui veulent ouvrir leur Bible, c'est au verset 28e que ce texte se trouve, venez à moi vous tous qui êtes travaillés, chargés, et je vous donnerai du repos. Et puis, il est ajouté, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Donc, maintenant que vous êtes ici, qu'il vous donne le repos de la conscience, qu'il vous délivre de tout votre passé, eh bien, il vous dit maintenant, je vais vous donner mes instructions. Mais alors, prenez mon joug sur vous, c'est-à-dire, écoutez ce que j'ai à vous dire. Ce n'est pas un joug pesant, mais c'est une discipline que l'on s'impose, on accepte son joug. Et vous savez ce que c'est qu'un joug, hein? On attelait autrefois les bœufs, quand on se servait encore des bœufs plutôt que des machines, et on mettait les bœufs sous le joug. Donc deux bœufs sous le joug étaient obligés de marcher ensemble, en harmonie. Alors ce que le Seigneur vous propose durant cette retraite, c'est que nous soyons sous son joug. Alors, si nous sommes sous son joug, lui le porte à moitié et nous l'autre moitié, n'est-ce pas? De sorte que pour que la marche soit harmonieuse, nous allons marcher au pas de Jésus. Non pas plus vite que lui ou en étant en arrière, mais nous allons marcher ensemble, sachant que le joug, lui le porte avec nous. Et qu'au fond, il le porte plus que nous ne le portons. C'est lui qui a tout le poids, en quelque sorte, de ce joug. À nous simplement de suivre. Son joug ne nous écrase pas. Nous allons le voir tout à l'heure. Hein? Alors, acceptez mon joug et recevez mes instructions. Il a des instructions à nous donner. Et je veux croire que vous êtes venus avec le désir d'être instruit, de recevoir quelque chose qui marque votre vie. Vous n'avez pas voyagé ce soir et à travers la nuit, même en cherchant ce lieu, pour ne rien recevoir, mais pour recevoir une instruction valable. Et il n'y en aura pas qu'une, il y en a plusieurs, recevez mes instructions. Car, vous connaissez la fin du verset, je suis doux Il dit pas je suis dur. Peut-être que vous vous dites, on va entendre des paroles dures. On nous a dit justement que ce prédicateur osait dire des choses dures, des choses peut-être qui ne plaisent pas toujours. Eh bien, c'est pas moi qui vous reçois, c'est le Seigneur Jésus. Et lui vous dit, je suis doux et humble de cœur. Vous n'êtes pas devant quelqu'un qui se croit supérieur à vous. Parce que si c'était le cas, je ne serais pas disciple de Jésus. Car un disciple de Jésus, il a dans son cœur les sentiments qui se trouvaient en Jésus-Christ. C'est une des paroles de Saint Paul. Qu'il y ait en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et quand on a les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, on estime son prochain supérieur à soi-même. Ce n'est pas parce que j'essayerai de vous donner un enseignement que je me prends pour quelqu'un de supérieur à vous. Et si parmi vous, quelqu'un ne comprenait pas une de mes paroles, n'ayez surtout pas honte de poser une question et de demander une explication, parce que ce serait abominable que le message passe au-dessus de vos têtes. Je n'ai pas cette prétention. Je veux croire que je serai assez à vos pieds pour que le Seigneur atteigne vos cœurs et qu'il illumine par sa grâce votre intelligence. Je suis doux et humble de cœur. Et il est dit que si vous recevez ces instructions, eh bien, vous trouverez le repos de vos âmes. Vous voyez que deux fois, dans ce texte, il est parlé de repos. Il y a un repos que Jésus donne, et ce repos qu'il nous donne, il peut nous le donner parce qu'il nous l'a acquis à la croix. Il a payé pour que nous ayons le repos de notre conscience qui nous rendait coupables, qui nous accusait pour de bonnes raisons, on se sentait accusé. Eh bien, Jésus ne veut plus que ce soir vous vous sentiez accusé. Il vous libère de vos accusations, il vous donne le repos de votre âme. Mais maintenant, comme il sait que vous allez retourner un jour dans vos demeures, si Dieu le veut, à moins qu'il nous prenne ce soir dans sa demeure, hein, parce que ça pourrait aussi arriver. Vous y avez pensé que peut-être on ne rentrera pas à la maison. Il est possible qu'il nous prenne dans sa demeure. Alors, mais s'il ne nous reprend pas dans sa demeure maintenant, eh bien, nous devrons encore cheminer un moment, et évidemment, si nous rentrons dans nos demeures, il voudrait aussi que nous y entrons avec le repos dans notre âme. Il y a le repos de la conscience, il le donne, disions-nous, mais maintenant il y a le repos de nos âmes. C'est-à-dire le repos dans une situation donnée. Au lieu de rentrer énervé, troublé, agacé, disant je retourne là, dans les mêmes circonstances, il va opérer en vous, si vous recevez ces instructions, de sorte que quand vous rentrerez et que vous vous trouverez en contact avec vos amis, vos parents ou vos collègues de travail, il vous aura donné le repos de vos âmes. Et il vous dit, mon joug est aisé et mon fardeau est léger. Donc vous connaissez le verset que je n'ai pas écrit complètement. Venez à moi, vous tous qui êtes travaillés, qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Et puis ensuite, prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Matthieu 11, versets 28 à 30. Et je vous dirai que certains parmi vous, en tout cas, le savent, cette parole, je l'ai vécue dans cette 60e année de ma conversion, juste après la dernière retraite du mois de février, vous vous souvenez, je souffrais d'une sciatique, et le 4, on a fini le 3, le 4, je devais partir aux États-Unis, et j'ai débarqué de l'avion, au fond, paralysé et en chaise roulante. Et j'ai été là jusqu'au 25 du mois de ce mois de février, en pensant, eh bien, peut-être que maintenant c'est fini pour moi, je suis paralysé, je resterai paralysé, les docteurs étaient très pessimistes. Et c'est à ce moment-là qu'à genoux, j'ai prié en disant, j'accepte ta volonté, Seigneur, si c'est fini pour moi. Et puis j'ouvre les yeux et je vois le verset du calendrier de ce jour-là, du 25 février, venez à moi, vous tous qui êtes travaillés et chargés. Et cette parole est devenue esprit et vie, je ne sais pas pourquoi, je l'ai cru en disant au Seigneur, Seigneur, j'accepte ta volonté, mais j'ai tellement dit souvent aux autres, venez à moi, j'ai prêché ta parole, il y a encore tant besoin, si tu voulais encore me maintenir et me donner ta grâce, je crois que tu peux, malgré ce que les docteurs disent, me faire marcher sans être en chaise roulante. Et à ce moment-là, je me suis levé. Et bien, pas mal. Et j'ai pu marcher parce que quand le paralytique s'est levé, hein, Jésus lui avait dit, lève-toi et marche. Alors, je me suis levé, j'ai marché, et puis, depuis, je marche. Je suis même allé en Hongrie. Voilà. C'est pour vous dire ce que le Seigneur est capable de faire. Je crois la parole de Dieu. Ses paroles sont esprit et sont vie, mais il ne faut pas qu'elles restent dans le livre. Il faut qu'elles vous pénètrent. Et que quand vous recevez une parole, que vous y croyez. Et que vous marchiez avec la force que cette parole vous donne. Ça, c'était le vœu que j'avais dans mon cœur pour vous ce soir, le souhait de bienvenue. Donc, ce n'est pas une parole gratuite que je vous dis, c'est la parole du Seigneur. Et maintenant, mon vœu pour cette retraite. Eh bien, j'ai beaucoup prié et j'ai dit au Seigneur, qu'est-ce qui doit se passer dans cette retraite? Quand nos amis quitteront la retraite, et qu'ils retourneront dans leur demeure, on va leur poser des questions. Souvenez-vous, et on vous demandera ce que vous avez reçu au cours de ces journées. Et alors, j'ai eu ce texte des Actes, dont je n'ai mis qu'une partie, Actes, chapitre 4. Ce n'est pas encore le grand sujet que nous traitons maintenant, puisque plusieurs ne sont pas encore arrivés. C'est une introduction, simplement. Mais, quel est ce vœu? Il les reconnaissait pour avoir été avec un prédicateur? Non. Avec Jésus. Si vous êtes venu pour le Seigneur, vous aurez été avec le Seigneur, et moi aussi avec lui. Nous avons été ensemble avec le Seigneur. Et quand nous nous quitterons, qu'est-ce que le monde devrait reconnaître? Que nous avons été où? Simplement chez les sœurs grises, nous sommes reconnaissants pour l'hospitalité qu'elles nous donnent. Hein? Non pas chez les sœurs grises, mais nous aurons était avec Jésus. Et quand on est avec Jésus, eh bien, quelque chose de lui se reflète dans nos vies. Que ce soit votre femme, que ce soit votre mari, que ce soit vos enfants, que ce soit vos collègues, eh bien, ce que j'ai demandé à Dieu de toute mon âme, c'est qu'on vous reconnaisse à l'issue de cette retraite, pour des hommes et des femmes, jeunes ou plus âgés, qui ont été avec Jésus. Non pas des hommes et des femmes qui parlent à tort et à travers de Jésus, et qui agacent tout le monde avec leur Jésus, mais des hommes et des femmes qui, lorsqu'on les approche, eh bien, dégagent quelque chose du parfum de Jésus, de la douceur de Jésus, de l'amour de Jésus, de la joie de Jésus. Parce que vous savez, la joie, ça ne se fabrique pas. On ne fabrique pas la joie. La joie, c'est un fruit de l'esprit. L'amour, c'est un fruit de l'esprit. Alors, à nous d'être des canaux qui laissons passer tout ce qui vient du trône de Dieu, de son amour, de sa joie, de sa paix. La paix, elle ne se fabrique pas, elle vient d'en haut. Alors, ouvrons tout grand nos cœurs et laissons l'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur, la bienveillance, la fidélité et la maîtrise de soi. Laissons l'Esprit de Dieu nous remplir de tout cela et alors on nous reconnaîtra pour avoir été avec Jésus. C'est le vœu profond de mon cœur pour cette retraite, et je vous le dis tout au début. Mais comme dans la dernière retraite, nous avons dit que aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière, et qu'il ne faut pas isoler un verset pour que vous puissiez bien le comprendre, nous allons lire le texte où ce verset se trouve, pour que nous sachions bien de qui il est question. Qui étaient ces gens qu'on reconnaissait pour avoir été avec Jésus? Et qui étaient ceux qui reconnaissaient que ces gens avaient été avec Jésus? C'était les ennemis de Jésus, comprenez-vous? Et vous êtes dans un monde, ou en tout cas on me le dit souvent, on est dans un monde où les gens sont ennemis de Dieu, ennemis de Jésus, ennemis de la sainteté, ennemi de la vérité. On vit dans l'injustice, on vit dans le mensonge, on vit dans l'impureté. Eh bien, oui, on est dans un monde ennemi. Eh bien, c'était justement ces ennemis qui ont reconnu certaines personnes pour avoir été avec Jésus. Et qui étaient ces personnes? Des grands prédicateurs? Non, des gens tout simples. Des gens tout humbles, les disciples de Jésus. Un Pierre qui était un illettré, mais pourtant un apôtre. Un pêcheur et qui avait été appelé par Jésus à la demande de son frère Simon. Alors je vous lis au verset 13 du chapitre 4, des Actes, pour que vous connaissiez bien mes sources. Chapitre 4. Nous trouvons Pierre et Jean qui témoignent du Seigneur devant le tribunal juif, le Sanhédrin, où avait comparu Jésus. Et vous savez ce que le Sanhédrin avait fait de Jésus? Il l'avait condamné à la crucifixion. Et maintenant que Jésus est ressuscité, qu'il est dans la gloire, on demande des comptes à ses disciples, à ceux qui l'ont connu. Et ils sont eux-mêmes accusés devant le Sanhédrin qui a condamné Jésus. Et que disent-ils? Eh bien, ils rendent témoignage que c'est Jésus qui a opéré cette merveilleuse guérison que nous trouvons au chapitre 3 et que nul ne peut contester. La puissance s'est manifestée en Pierre, pas la puissance de Pierre, mais la puissance de Jésus en Pierre, de sorte que un boiteux qui était connu de tous sautait de joie et louait Dieu. Et alors, verset 13, ces Juifs, chefs du peuple, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, qui étaient donc deux pécheurs, ils furent étonnés. Vous ne trouvez pas que c'est merveilleux que les vôtres et ceux qui vous entourent, quand ils vous reverront, soient étonnés. Ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Excusez-moi, je ne vous prends pas pour des gens du peuple sans instruction. Hein. Mais c'est simplement pour vous dire que personne ici ne se sente malheureux. Hein, parce que pour des gens qui étaient sans instruction, des gens qui avaient des diplômes bien encadrés, ont reconnu qu'ils avaient quelque chose qu'eux ne possédaient pas. Ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Ils ne les ont pas reconnus comme étant leurs disciples, ayant fait des études dans leurs écoles. Hein. Mais on les a reconnus, ces gens tout simples, sans instruction, on les a reconnus pour avoir été avec Jésus. Alors, quel que soit votre degré d'instruction, votre degré de culture, je suis ambitieux pour chacun de vous, et je veux croire que le Seigneur peut vous donner une culture unique qu'aucune école de ce monde ne pourrait vous fournir. Ceux qui étaient là lors de notre dernière retraite, qui était la première de l'année, en février, se souviennent que mon texte d'introduction se trouvait dans le psaume 119, hein? Vous vous en souvenez peut-être, le verset 130, où il est dit dans ce psaume, qui est, comme vous le savez, le plus long de tous les psaumes, « La révélation de tes paroles est claire et elle donne de l'intelligence à qui ? Aux saints. » Alors, je vous disais au mois de février, si vous voulez recevoir une bénédiction dans cette retraite, ayez un cœur simple. Et j'ai même employé un cœur d'enfant. Car un enfant, il croit ce que son père ou sa mère lui dit. Il croit, il ne met pas en doute les paroles d'un père, si son père n'est pas un homme qui l'a habitué à mentir. Hein. Si son père est un vrai père, l'enfant croit les paroles de son père. Eh bien, ayons un cœur d'enfant et soyons simples devant les paroles de notre Dieu. C'était donc notre thème de notre dernière rencontre. Et alors, nous avons étudié dans notre dernière rencontre le thème « La parole prophétique ou une lampe dans un lieu obscur ». Ceux qui n'étaient pas là et qui aimeraient savoir ce qui a été dit, vous pouvez obtenir les cassettes car cela a été enregistré. « La parole prophétique ou une lampe qui brille dans un lieu obscur ». Et alors, nous avons essayé de voir ce qu'était cette parole prophétique. La parole prophétique, ce n'est pas simplement une parole qui nous révélerait l'avenir. Une parole prophétique, c'est une parole qui ne vient pas de notre intelligence, de notre imagination. C'est pas à nous qui l'avons composée, c'est pas à nous qui l'avons imaginée, cette parole. Une parole prophétique, ce n'est pas une parole qui nous donne simplement une révélation de l'avenir. Une parole prophétique, essentiellement, qu'est-ce que c'est? C'est une parole qui vient du cœur de Dieu. C'est une parole qui est une révélation, dont la source est Dieu lui-même et dont l'objet n'est pas nécessairement des événements futurs, mais une personne. Et cette personne, c'est qui? Jésus. La parole prophétique a pour but de mettre devant nos yeux Jésus-Christ. Vous devez toujours vous souvenir de cela. Une parole prophétique, ce n'est pas simplement une parole qui vous révèle l'avenir, elle le fait aussi dans un certain sens, mais l'essence d'une parole prophétique, c'est de mettre devant vos yeux Jésus. Et quand vous avez devant vos yeux Jésus, toutes les ombres peuvent se dissiper. Si vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, et qu'en croyant en lui, vous avez reçu la vie par son nom. Jésus, c'est lui qui est l'objet de la parole prophétique. Et cette parole, il est dit qu'elle est une lampe qui brille dans un lieu obscur. C'était notre thème de l'autre jour, du mois de février. Quel est ce lieu obscur? C'est nos cœurs, mais le lieu obscur où nous sommes dans l'obscurité, c'est ce monde. Mais dans ce monde, nous pouvons avoir comme une lampe qui brille pour éclairer notre chemin, pour nous montrer comment nous devons marcher et éviter les fondrières. Alors, la parole prophétique est comme une lampe, une parole qui vient de Dieu et qui est comme une lampe dans un lieu obscur. Et cette lampe, c'est Jésus lui-même. Jésus disait, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et je voudrais seulement vous relire ce que Pierre, parce que j'ai trouvé cette parole prophétique, donc, dans la deuxième épître de Pierre, et pour que ceux qui ne sont pas venus à la première retraite, et vraiment une base biblique, nous allons lire ce que Pierre disait, ça rappellera à ceux qui ont assisté à la conférence ce que nous avons dit essentiellement. Verset 16 du chapitre 1er de la deuxième épître de Pierre, Pierre disait ceci, c'est dans son testament spirituel. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçu que nous vous avons fait connaître la puissance de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Et nous avons vu que cette étoile du matin, c'est quoi? C'est qui? C'est Jésus. Et quand l'étoile du matin s'est levée dans nos cœurs, eh bien nous avons déjà la lumière en nous. sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture, que vous preniez dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau, ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. On n'a pas le droit de piquer un verset et de faire dire à ce verset ce qui nous plaît. Un verset de l'Écriture doit être considéré à la lumière de toute la Bible. C'est pourquoi le grand but que nous avons dans ces retraites, c'est de vous donner non pas le goût du Québec d'abord ou du Canada, parce que nous n'avons pas de politique, mais de vous donner le goût, non pas seulement du Nouveau Testament, mais aussi de l'Ancien. Et vraiment, eh bien, j'espère que vous ne reviendrez plus jamais écouter mes paroles si à la fin de cette retraite, vous n'avez pas le goût de la Bible. Si vous n'avez pas le goût de lire l'Ancien Testament, eh bien, c'est que j'aurais raté complètement, j'aurais été complètement hors de la plaque. Mais j'espère qu'en Jésus, vous aurez compris. Parce que je ne cherche pas des auditeurs, je ne cherche pas un auditoire. C'est pas cela qui compte. Jésus, il parlait à une âme. Et quand une âme avait compris, eh bien, il en faisait un témoin. Et ce que nous voudrions au Québec et partout ailleurs, c'est qu'il y ait des âmes qui soient des témoins et qui vivent directement en relation, non pas avec leur pasteur ou leur curé ou leur pape, mais vous savez, il y a beaucoup de papes protestants, entre parenthèses, il n'y a pas qu'un pape, il y a des sous-papes, il y a tout ce que vous voulez, en tête et latérale. Alors, faites attention, croyons-le bien, nous désirons que vous n'ayez plus besoin de nous et que vous puissiez dire, le Seigneur me suffit. Non pas parce que vous allez ignorer vos frères, mais vous serez tellement reconnaissant de ce que vous avez reçu du Seigneur que vous pourrez marcher dans la vie avec force. Êtes vous-même des témoins de Jésus. C'est ça le problème de l'évangélisation résolue. C'est que quand chacun de nous aura compris ce qu'il trouve dans le Seigneur, eh bien, les autres vous demanderont et vous reconnaîtront pour avoir été avec Jésus. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes de Dieu ont parlé de la part de qui ? De Dieu. Alors voilà la grande base. De notre première étude de l'année. Alors, je pense que vous l'avez compris, la parole prophétique est donc une révélation qui est reçue de Dieu, et non une construction de l'imagination humaine. Et dans les Écritures, cette parole ne peut jamais être, je me répète, l'objet d'une interprétation particulière. Venant de l'Esprit de Dieu, toute Écriture étant inspirée de Dieu, pour pouvoir comprendre une parole qui vient de l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qu'il nous faut ? L'Esprit de Dieu. C'est dit clairement dans la première aux Corinthiens, chapitre 2, verset 16, n'est-ce pas ? Nous ne pouvons comprendre les profondeurs de Dieu que par l'Esprit de Dieu. Et dans le livre des Nombres que je vous ai déjà cité l'autre jour, eh bien, nous avons vu comment Dieu lui-même dit à Aaron et à Marie comment il se révèle aux hommes. Et maintenant, aujourd'hui, le thème de notre retraite fait suite au fond à la précédente, et il se trouve dans quel livre ? Apocalypse. Alors, je me suis demandé, est-ce que les gens seront intéressés par ce texte de l'Apocalypse ? Avez-vous lu ce livre de l'Apocalypse ? Tous ? Et si vous me disiez que vous ne l'aviez pas lu, on ne vous mettrait pas dehors. On vous dirait seulement, ben, on va apprendre à le lire. N'est-ce pas? Ça vaut la peine. Mais je vous dirai tout de suite que si vous voulez lire l'Apocalypse, il vous faudra lire l'Ancien Testament. Parce que vous ne comprendrez jamais rien dans l'Apocalypse si vous négligez l'Ancien Testament. Croyez-le bien, et j'espère que le Saint-Esprit vous en donnera les preuves dans les jours qui viennent. Je ne fais maintenant qu'une introduction, parce qu'il y a plusieurs qui ne sont pas encore là, hein. Je ne vais pas avancer trop, mais dès demain, nous commencerons. Hein. Maintenant, nous jetons quelques jalons avant que vous puissiez prendre la collation et vous détendre. Hein. Mais pour l'instant, je vais vous lire le texte qui nous a donné, parce que remarquez-le bien, toutes les fois que nous faisons une étude, c'est toujours un thème biblique que nous choisissons et qui annonce notre sujet, de sorte qu'on ne trompe personne. Chapitre 19 de l'Apocalypse. Nous lisons au verset 9 pour le laisser dans son contexte. C'est un ange qui est en train de parler à qui? À Jean, qui a été visité par Dieu dans l'île de Patmos où il se trouve relégué à cause des persécutions. Et Jean a reçu de l'ange une révélation extraordinaire. Une révélation qui venait directement de Dieu. Cette révélation, Dieu l'avait donnée à Jésus-Christ. Il faut lire le premier chapitre. Dieu, est-il dit, avait donné à Jésus, son Fils unique, une révélation. Et cette révélation, Jésus, qui était dans la gloire, l'a confiée à un ange pour que cet ange, l'ange du Seigneur, vienne communiquer cette révélation à Jean, son apôtre, son serviteur. Voilà ce que nous disons dans le chapitre premier de l'Apocalypse. Parce que le mot Apocalypse ne veut pas dire catastrophe, comme on l'a traduit dans nos langues, hein. Ça veut dire révélation. Et c'est une révélation de Dieu, donc Dieu est l'auteur de cette révélation, il l'a donnée à Jésus-Christ, et Jésus-Christ, au lieu de garder cette révélation pour lui, il a voulu la communiquer à son serviteur Jean, qui était le dernier des apôtres encore en vie à la fin du premier siècle. Vous savez que les premiers disciples avaient cru que Jean ne mourrait pas avant le retour du Seigneur. Bien, Jean était encore en vie quand la révélation est venue. Avant sa mort, il a eu une révélation qui venait de Dieu, mais qui concernait Jésus-Christ, et c'est un ange qui la lui a communiqué. Et nous allons en parler dans les jours qui viennent. Et cette révélation a tellement bouleversé l'apôtre Jean, et au fond l'a tellement réjoui aussi, parce que le livre de l'Apocalypse, loin vous faire peur, parce qu'il y en a qui ont peur de l'Apocalypse, mais qu'est-ce qu'il devrait vous donner? Une parfaite béatitude. Parce que combien trouvons-nous de béatitudes dans l'Apocalypse? 7. Et 7, c'est le chiffre de la perfection. 7 fois, il est question d'être des bienheureux. Alors on se dit, mais alors quelle est cette annonce, quelle est cette révélation? Eh bien, c'est la révélation que ce Jésus, qui est venu une première fois dans l'humilité, et qui, lorsqu'il était petit bébé, avait chanté les anges du ciel, et a rempli de joie des pauvres de la terre, les bergers qui sont venus l'adorer, ce Jésus qui a enseigné sur cette terre, ce Jésus qui a guéri les malades, ce Jésus qui a été l'objet de la haine des hommes, ce Jésus qui a été crucifié, qui a été mis en croix, comme on le voit ici, eh bien, ce Jésus qui a été mis dans le tombeau, est-ce qu'il est resté dans le tombeau ? Il est ressuscité, les disciples en sont témoins, il est monté au ciel, ils l'ont vu monter au ciel, et vous savez, ces disciples qui se bagarraient toujours quand ils étaient ensemble, qui voulaient toujours savoir lequel était le plus grand, une fois que Jésus est allé au ciel, ils ne se bagarraient plus. Pourquoi ? Parce que l'objet de leur affection se trouvait dans le ciel. Et c'est ça, vous savez, on s'aime quand l'objet de nos affections se trouve dans le ciel. Mais si j'ai de l'envie, parce que toi tu as ceci, puis toi tu as cela, hein, je suis un homme malheureux. Mais quand l'objet de mes affections est un objet céleste, eh bien, je me réjouis de ce que tu possèdes, parce que j'ai quelque chose de meilleur. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous a enseigné, nous a montré, il dit, j'ai fait la perte de toutes choses, j'estime même toutes ces choses que le monde pourrait me donner, j'estime cela comme des ordures, pourquoi ? Afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui. Il a tout en lui, nous avons tout pleinement en Christ. Mais est-ce que c'est seulement dans la Bible ou bien est-ce que c'est dans mon cœur ? Est-ce que c'est dans nos vies ? Est-ce que les gens savent que nous avons tout pleinement ? Vous me direz, oui, mais vous ne savez pas ce que c'est que la vie. Mais oui, je sais ce que c'est que la vie. Je sais aussi ce que c'est que la mort. Je sais aussi ce que c'est que la maladie. Je sais aussi ce que c'est que les opérations. Je sais aussi ce que c'est que la vie difficile. Et puis, quand on est dans le ministère, bien, on est tout le temps en contact avec des gens qui sont dans la misère et dans la peine. Hein. Alors, on les comprend. On a de la sympathie, on a de la compassion pour eux. Donc, on sait quand même quelque chose de ceux qui souffrent. Mais ce qu'on sait par-dessus tout, c'est que les paroles de Jésus sont vraies. Et que quand il dit « Recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, plutôt que la sécurité », parce que maintenant les gens cherchent surtout la sécurité pour demain, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes les autres choses. Mais est-ce que c'est écrit ou est-ce que c'est pas écrit? Voyez-vous, moi je crois que nous sommes de terribles incrédules. Nous sommes des incrédules. Dire qu'on est sauvé puis on est tout le temps dans la crainte, dans le doute, c'est pas du salut ça. Moi j'appelle pas ça du salut. C'est pas le salut. Le vrai salut, c'est pas pour mourir en paix demain et pas aller en enfer. Le vrai salut, c'est pour vivre maintenant, pour vivre dans l'actualité présente, pour vivre dans tous ces conflits, mais en ayant une direction qui ne vient pas simplement des syndicats, je n'ai rien contre eux, mais qui vient du Seigneur. Que dit Jésus? Et que me montre-t-il? Et que veut-il? Et quelle est cette fameuse nouvelle de l'Apocalypse? Eh bien, on apprend que ce Jésus qui a été crucifié, qui est monté au ciel et qui a enlevé le cœur de ses disciples dans le ciel, de sorte que maintenant ils peuvent s'entendre sur la terre, parce que leur destinée est une destinée céleste, on peut leur prendre la place sur la terre, ils savent qu'ils ont une place au ciel qu'on ne peut pas leur ravir. Alors ils sont heureux, on peut nous prendre notre place, mais pas là-haut. Et il nous a préparé une place. Alors, on est dans la paix, on est dans le bonheur du Seigneur, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas des difficultés, qu'on n'a pas des troubles, mais dans nos troubles et nos difficultés, on a affaire avec le Seigneur. Et on lui rappelle sa parole, mais tu as dit cela, Seigneur. Alors, tu m'éprouves, mais je crois. Parce que si je n'étais pas éprouvé, je n'aurais pas de délivrance. Les délivrances, on ne les a qu'après avoir eu des détresses. Alors il faut des détresses pour qu'on connaisse les délivrances et qu'on ait des actions de grâce. Qu'on ait des actions de grâce. On voit l'action de Dieu dans nos vies. C'est pas un Dieu qui est retiré au fond du ciel, c'est un Dieu qui vit avec nous et qui vit en nous. Quelle que soit notre situation. Eh bien, la bonne nouvelle que nous apprenons, c'est que Jésus, qui prie maintenant pour nous, a reçu de son Père cette merveilleuse révélation que c'est entre ses mains qu'il va remettre le gouvernement du monde. Et que ce gouvernement, c'est lui-même qui va l'établir. Ce n'est ni les Russes, ni les Américains, ni les Européens qui vont trouver la solution. C'est la grande nouvelle que Dieu sépare à son Fils. C'est toi que j'ai établi comme juge des vivants et des morts, et c'est toi qui reviendras en puissance et en gloire pour établir ton règne, car tu n'as pas encore régné. Il faut qu'il règne. Il faut qu'il règne. Et cette grande nouvelle, nous l'avons dans le livre de l'Apocalypse. Mais alors, c'est une nouvelle qui concerne donc les croyants, qui ont une vue tout autre du Seigneur que celle que leur donne l'Évangile. Les gens qui n'ont lu que l'Évangile, les chrétiens baptisés qui n'ont lu que l'Évangile, ils n'ont pas une idée complète de ce qu'est le Seigneur. Ils ont vu l'agneau doux et humble de cœur qui s'est laissé faire, qui a dit que si on te frappe sur cette joue, tends l'autre, etc. Alors vous... N'est-ce pas, on n'aime pas tellement cela, nous autres. Eh bien, voilà que on a une vision d'un certain Jésus des évangiles, mais on n'est pas très enthousiaste pour le suivre. Mais voilà qu'on apprend que ce n'est pas simplement le Jésus des humiliés, le Jésus arrêté, le Jésus crucifié, mais c'est un Jésus glorieux qui va revenir en puissance et en gloire pour juger le monde. Que de fois vous avez dit, si Dieu existe, hein, comment peut-il laisser ces choses se faire? Eh bien, Dieu va vous montrer en envoyant son Fils qu'il est un Dieu juste et qu'il y a une rétribution. L'Apocalypse, c'est vrai, est un livre de jugement. Mais qui est-ce qui sera le juge? Le seul juste. C'est Jésus qui sera le juge de toute la terre. Et c'est Jésus lui-même qui apportera la délivrance et à son Église et finalement au monde. Et la fin du monde, ce n'est pas une catastrophe épouvantable, c'est une nouvelle création. Vous ne trouvez pas que c'est positif? C'est comme ça que devait lire l'Apocalypse. Et c'est comme ça que nous allons lire. C'est une bonne nouvelle. C'est une nouvelle création. La fin du monde, ça finit par une nouvelle création où tout est paix, justice, amour et gloire. Mais il y a des étapes. Et alors, nous allons considérer ensemble ces étapes. Mais ce livre est un livre de consolation. Alors, j'espère que vous prendrez le goût de lire ce livre. Et je vous lis pour terminer le texte dans son contexte. Jean, donc, au chapitre 19 de l'Apocalypse, a entendu l'ange que le Seigneur lui a envoyé lui expliquer ces choses merveilleuses du livre. Verset 9 du chapitre 19. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Est-ce que vous êtes des appelés au festin des noces de l'agneau? Ou bien est-ce que vous vous considérez simplement comme des oiseaux carnassiers qui sont appelés à un autre festin, à dévorer la chair des grands, des filiarques, etc. J'espère que vous êtes de ces appelés aux noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles ton quoi? Les véritables paroles de Dieu. Est-ce que vous le croyez? Ces paroles, donc, et c'est toutes les paroles de l'Apocalypse, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Alors que fais-je? Je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Vous ne trouvez pas que c'est actuel? Adore Dieu. Vous me direz que je deviens vieux et que je me répète beaucoup. On adore tout aujourd'hui. Vous ne pouvez pas entendre un discours à la radio ou ailleurs ou à la télévision sans entendre des gens qui adorent. Oh, j'adore. On leur demande quelque chose, ils adorent. J'adore ceci, j'adore ça. Adore Dieu. Et vous avez tous été élevés avec ce commandement, un seul Dieu, tu adoreras. Mais vous l'avez rayé peut-être. Hein? Alors on adore tout. Adore Dieu. Pas même un ange. Hein? Mais on peut tellement bien comprendre Jean. Jean est tellement reconnaissant, il est tellement émerveillé par les explications que lui a donné l'ange. Et puis un ange, ben, c'est quand même un esprit divin. Hein? Alors, il tombe à ses pieds. Mais l'ange ne se laisse pas adorer. Il lui dit, je suis ton compagnon de service. Les anges sont des esprits administrateurs employés envers ceux qui doivent hériter du salut. Vous n'avez pas à adorer les anges. Lisez Colossiens chapitre 2, où le culte des anges est proscrit. On n'a pas à adorer les anges. Les anges sont des esprits administrateurs employés envers ceux qui doivent hériter du salut. Donc nous n'avons pas à adorer les anges. Mais les anges s'estiment nos compagnons de service. Vous avez déjà éprouvé le service des anges? Vous savez, on ne sait pas voir. On est souvent aveugle. Mais que d'anges sur notre route. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Voilà le thème que nous allons commencer à partir de demain. Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Moi j'ai mis ici « ou l'esprit de la prophétie » parce que on peut traduire cette phrase, et cela est juste dans les deux traductions, le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie ou la prophétie est le témoignage de Jésus. J'ai pris cette traduction littérale. L'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Jésus. Ce sera donc notre thème. L'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Jésus. Alors je voudrais, encore juste deux mots, est-ce que vous avez bien compris? Qu'est-ce que c'est l'esprit? Qu'est-ce que ça veut dire ici, le mot l'esprit? L'esprit de la prophétie. Qu'est-ce que c'est? Que veut dire le mot esprit dans ce passage? L'esprit, c'est le sens profond. Hein? C'est la substance de la prophétie. La substance de la prophétie. L'esprit d'une prophétie, c'est le témoignage de Jésus. La substance, le sens profond d'une prophétie, c'est le témoignage de Jésus. Mais alors, qu'est-ce que c'est qu'un témoignage? C'est la déclaration de ce qu'on a vu et dans ce qu'on a entendu. Hein. On a vu quelque chose, on a entendu. Et de quel témoignage est-il question ici? Du témoignage de qui? De Jésus. Ce n'est pas un témoignage rendu à Jésus. Comprenez-le bien. Il est question, dans l'Apocalypse, du témoignage de qui? De Jésus. Jésus a reçu une révélation de son Père. Il nous l'a communiqué. De sorte que ce qui nous a été communiqué est le témoignage de qui ? De Jésus. Ce n'est pas un témoignage qu'on rend à Jésus. C'est le témoignage même de Jésus. Et l'esprit de la prophétie, le sens profond de la prophétie, c'est un témoignage que Jésus a rendu. Et quand un prophète, nous allons le voir, dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, a vraiment prophétisé, a donné une révélation, eh bien, ce n'était pas simplement une révélation concernant le futur, c'était une révélation qui venait de qui ? De Jésus. C'était le témoignage de Jésus. Ainsi, Jésus a parlé en Noé à ses contemporains. C'est ce que nous lisons. Dans tous les prophètes, dans le chapitre 1er de Pierre, il est dit que c'était l'Esprit de Christ qui était en eux, qui rendait témoignage des choses que eux ne comprenaient pas. C'était l'Esprit de Jésus qui était déjà dans les prophètes. Alors, tout l'Ancien Testament est rempli de l'Esprit de Jésus. Ce n'est pas des prophéties d'autres hommes. Les prophéties, ce n'est pas le travail de l'homme, de l'esprit de l'homme. C'est une révélation qui a été donnée. Nous allons nous arrêter maintenant. Et vous avez lu la petite feuille qui vous donne... Pour vendredi soir, on a dû commencer un peu en retard, je m'en excuse, mais plusieurs n'étaient pas arrivés à cause des circonstances. Alors, nous avons vu le souhait de bienvenue, c'est Jésus qui vous a accueilli. Notre vœu pour la retraite, on espère qu'à la fin de cette retraite, ceux que vous retrouverez vous reconnaîtront pour avoir été non pas avec un prédicateur, c'est pas intéressant, mais avec Jésus. Puis, on avait pensé un moment de prière libre, pour encore la voir. L'introduction de notre sujet, on l'a présenté simplement dans la faiblesse. Mais maintenant, avant que Josaphat vous parle, on aura une simple présentation des participants.
Mes chers amis, je suis heureux de vous accueillir ce matin dans l'amour du Seigneur. Et je voudrais que tous ici puissent rendre ce témoignage que nous avons un bon et tendre Père. Figurez-vous que cette nuit, il m'a laissé dormir jusqu'à 6 heures. C'était presque angoissant de se réveiller à 8h. Parce qu'habituellement, il me réveille beaucoup plus tôt. Et dans les heures de la nuit, on peut l'écouter, on peut méditer. Mais ce matin, il a prouvé que j'avais besoin de repos. Et il dit qu'il en donne autant à ses bien-aimés dans leur sommeil. Vous connaissez ce psaume, sans cesse. Et alors, au lieu de rester dans l'angoisse au sujet de tout ce qui va se passer dans cette journée, on se trouve dans le repos. Si on prend cette parole, tu l'as dit, Seigneur, alors je suis dans la paix. Et dans cette heure, on a quand même le temps de se doucher, on a quand même le temps de se raser, de faire sa toilette, toutes les questions matérielles, eh bien non. On les affronte aussi. Et alors, la parole qu'il m'a donnée ce matin, vous la lisez, elle fait partie de tout notre thème. Bienheureux, celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie de ce livre et qui gardent les choses qui sont écrits. Donc il y a là trois mots qui nous arrêtent. Lire, Et je pense que vous pouvez tous le faire, entendre dans ce temps-là, tout le monde ne savait pas lire, et alors il y avait des frères qui lisaient pour l'assemblée, et toute l'assemblée écoutait. Donc on entendait, on lisait et on entendait. Et dans nos retraits, nous soulignons toujours que si vous voulez être béni, vous ne devez pas simplement, quand vous serez dans vos chambres, lire, mais aussi vous entendre. Et comment pouvez-vous vous entendre? C'est en faisant cette lecture à haute et intelligible voix. Je ne vous dis pas de crier pour ne pas déranger la personne à côté, mais si vous lisez à haute voix, eh bien, cela entre non seulement par vos yeux, mais aussi par vos oreilles, et une chose qui est très importante, vous vous habituez à entendre votre voix. Et il faudrait quand même aussi, qu'en écoutant votre voix, vous compreniez ce que vous lisez. Et pas simplement marmotter, mais vous prononcer distinctement chaque mot. Et s'il y a un mot que vous ne comprenez pas, vous le notez. Et puis, on l'expliquera, n'est-ce pas? Tandis qu'on peut lire, puis après on ne se souvient de rien. Il faut cultiver sa mémoire, accepter le jour si doux du Seigneur, se discipliner pour pouvoir comprendre, lire, entendre soi-même aussi, et puis garder. Une fois qu'on a lu, qu'on a entendu, qu'on a compris le sens du mot, eh bien, la voix non seulement descend dans notre cœur, mais comme le cœur est la pompe qui envoie le sang partout dans notre être, il faut que nous puissions être influencés par la lecture que nous avons faite, comme je dis souvent, que ces vérités qui sont dans la Bible se fixent dans votre sensibilité, afin que dans la marche quotidienne, vos pieds soient influencés par la parole. Puisque l'Écriture dit que la parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Il faut que cette parole aille jusqu'au bout de vos doigts. Il enseigne mes doigts pour le combat. Il faut que tous vos membres, en quelque sorte, soient imprégnés par cette parole. Et surtout, votre cœur étant rempli de cette parole, eh bien, l'Esprit Saint fera remonter cette parole sur vos lèvres, et vos lèvres exprimeront des paroles de grâce, des paroles qui édifient, et non pas des paroles qui jugent, des paroles qui condamnent, des paroles qui ne sont pas des louanges au Seigneur. Alors que le Seigneur voudrait que la louange, quelles que soient nos circonstances, soit toujours sur nos lèvres, alors que dans ces temps qui sont les temps de la fin, nous entendons le plus souvent des murmures, des plaintes, des gémissements de ceux qui croient pourtant au Seigneur Jésus et qui dans leur vie pratique, soit par leurs pensées, soit par leurs paroles, par leurs regards ou par leurs marches, déshonore le Seigneur. Alors, notre ambition, c'est que les uns et les autres, vous et moi premièrement, j'ai une conduite, des pensées, des paroles, des regards, des gestes, une marche qui glorifie le Seigneur. Ce sera le meilleur traité que vos proches pourront lire, et non seulement vos proches, mais ceux avec lesquels vous devez travailler quotidiennement. Et hier soir, pour ceux qui n'étaient pas là, nous vous avons dit que ce n'était pas nous qui vous accueillions, mais c'était le Seigneur Jésus lui-même. C'est pourquoi nous avons entendu ces paroles, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Et j'ai souligné que dans ce texte, que je n'ai pas écrit complètement, il y avait deux repos. Un repos que le Seigneur donne, c'est ce repos que nous ne pouvons pas nous-mêmes fabriquer, le repos de la conscience. Parce que tous, de nature, nous avons au fond une mauvaise conscience. Parce que nous savons bien que nous sommes pécheurs, nous savons bien que nous n'avons pas toujours raison dans nos conflits, dans nos difficultés. C'est toujours facile d'accuser l'autre. Et puis au bout d'un moment, quand nous sommes seuls, nous commençons de nous dire, mais que nous aussi, nous avons des torts. Alors on a tout de suite là une conscience qui nous accuse. Nous ne sommes plus dans le repos. Eh bien, Jésus vous dit, ce repos que toi tu ne peux pas fabriquer, ce repos de la conscience, moi je le donne. Parce que tes fautes, tes culpabilités, tes mauvaises pensées, tes paroles que tu regrettes au fond, eh bien, tout cela, j'ai supporté cela à la croix. Je suis mort pour toi sur la croix, pour que toi qui es le repos de la conscience, tu ne sois plus toujours culpabilisé par ton passé. Ton passé n'existe plus. Et je dis, quand je dis passé, pas passé lointain seulement, mais ton passé présent, je ne m'en souviens plus, je te donne le repos. Alors est-ce que vous allez le croire? Ça c'est le premier repos, nous ne sommes pour rien, où nous le saisissons dans la foi et une reconnaissance infinie pour celui qui a tout souffert pour que nous soyons dans le repos. Mais pour que notre conscience soit vraiment libérée, eh bien nous savons que nous devons faire confesser notre péché, nous humilier devant Dieu et le sang précieux de Jésus nous purifie de tout péché. C'est lui qui l'a dit. Et il dit que son sang, il n'a pas versé pour rien. Il l'a versé pour que tout soit effacé au lieu de Dieu. Alors, oh, je prends ce repos de la foi que Jésus me donne. Mais, si maintenant je me vis dans le repos quotidien, il faut que je prenne son jour, que je reçoive ses instructions, et alors, en recevant ses instructions de celui qui est doux et humble de cœur, qui ne nous juge pas, en recevant ses instructions, je trouve dans les circonstances même le repos de mon âme. Il y a donc un repos qu'il donne, et il y a un repos que l'on trouve. Et on le trouve en suivant ses instructions. Mais pour suivre ses instructions, il faut les lire, n'est-ce pas? Il faut les connaître. C'est pourquoi il a dit, bienheureux celui qui lit. Si vous ne voulez pas recevoir les instructions du Seigneur, vous aurez peut-être le repos de la conscience, mais vous n'aurez jamais le repos au sein de la vie pratique. Et c'est ce repos qui est votre santé. Ce qui nous ruine dans notre santé, bien souvent, c'est justement ce trouble. Alors que le Seigneur voudrait que nous soyons dans le repos. Mon joug est doux et mon fardeau est léger. Et alors, dans l'école de Jésus, à l'école de Jésus, eh bien, vous commencerez à lui ressembler. Lui-même pouvait être dans une nacelle qui semblait s'encombrer, et que faisait-il alors que ses disciples mouraient de peur, alors que Jésus était pourtant dans la nacelle? Qu'est-ce qu'il faisait? Il dormait. Et vous voyez les leçons que l'on peut prendre en lisant la parole. Il dormait. Alors, vous avez le Seigneur avec vous, et quand le monde vous retrouvera, eh bien, c'était le vœu de notre cœur pour ces journées. On vous reconnaîtra pour avoir été avec un grand nerveux. Un impossible. Quelqu'un qui a un sale caractère. Moi, je voudrais changer mon caractère. Tu ne peux pas. Aie affaire avec lui. Aie affaire avec lui. Et crois-le, lui peut tout transformer. Mais pour qu'on en finisse avec notre caractère, il ne faut pas seulement croire que Jésus est mort pour nous, soit accepté de mourir avec lui. Les morts ont un bon caractère. C'est fini, la discussion. Mourir avec lui. C'est pas seulement la mort de Jésus, mais ça doit être ma mort avec lui. Unis à lui dans sa mort, pour vivre maintenant une vie nouvelle, la vie de Jésus ressuscité. Et c'est ce que je vous souhaite aujourd'hui. Et je demande à Dieu que vous ayez maintenant un bon repas à la cafétéria. Et puis on se retrouvera, si vous le voulez bien, à 9h ici. Et là, vous ne montrerez pas, quand vous verrez dans quel groupe vous vous trouvez. On a fait cette répartition dans la prière. Et nous sommes absolument certains que vous serez heureux dans votre groupe, parce que Jésus y sera. Seigneur notre Dieu, nous voulons placer toute cette journée devant toi, qui en connaît la fin comme le commencement, et qui nous dit même que la fin sera meilleure que le commencement. Alors nous t'en louons et nous te bénissons, parce que le livre que tu nous appelles à consulter aujourd'hui est un livre qui veut nous rendre bien heureux et non pas malheureux et angoissés. Merci pour ta parole. Louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors, je vous souhaite bon appétit.